Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International, bien sûr. Et nous voilà sur notre planète pour bien évoquer notamment ce retour à la normale en Serie A. En tout cas, il nous semble, car la Juventus a repris son fauteuil de leader grâce, grâce à un toujours excellent Cristiano Ronaldo. Et ses concurrents sont déjà à la peine. L'Inter qui fait du surplace, la Lazio qui tente de se rapprocher. Le Milan est trop loin, mais en plus d'Ibrahimovic, les Rossoneri ont un jeune Théo Hernandez qui risque de faire parler de lui jusqu'en France. Erling Haaland, spectaculaire buteur du BVB, fraîchement débarqué chez les Jaunes et Noirs. Le jeune buteur norvégien a inscrit un triplé et assuré la victoire de Dortmund. Le Borussia est-il devenu plus dangereux pour le PSG qui jouera face au club allemand le 8e de finale de Ligue des Champions? Nous nous poserons la question notamment grâce à David Lortolarier. Oui, aujourd'hui il est là. Bonjour David Lortolarier.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
On vous réclame, apparemment on n'a pas le droit de parler tout allemand si vous n'êtes pas là.
Ah ben, ça fait toujours plaisir.
Bon, on s'y essaye un peu en tout cas. Karl Toko Ekambi sous les couleurs des Gones. L'international camerounais pris Marc-Vivien Fouet en 2018 revient dans le championnat de France pour aider l'OL en l'absence de ses stars blessées. Mais pourquoi l'OL a-t-il choisi KTE et pourquoi l'ancien buteur d'Angers revient-il d'Espagne? C'est une question peut-être pour un revenant dans Radio Foot International, revenant en 2020, Habib Bey. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous et meilleurs voeux, hein, parce qu'on ne s'était pas vu.
On peut jusqu'au 31. Alors bonne année Habib avec nous, j'espère.
Bien sûr.
Et puis il y a pour aider ce duo, Naïm Bognol. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Et Eric Mamrut de la rédaction. Bonjour Eric.
Modestement, bonjour tout le monde.
Modestement. Un salut particulier à un très fidèle auditeur du Niger, Ali Garba Loga. Un fan du Barça, paraît-il. Ça, c'est Abdelmalik Koudizé qui nous l'a raconté. J'espère, Ali Garba, que vous n'êtes pas trop triste de la défaite du Niger en finale du tournoi de Kinshasa, le Tifoso, battu par les Léopards. Ce n'est qu'une mise en route pour le Chan. Et on vous souhaite bon vent au Niger dans cette prochaine compétition au Cameroun. En attendant, Radio Foot, c'est parti.
C'est toujours la même chanson, la même chanson.
Et de 8, la Juventus, une fois encore sacrée championne d'Italie.
Championne d'Italia. Frappe de Ronaldo, un but. L'ouverture du score pour la Juve. Et ça fait 16 buts désormais pour CR7.
La même chanson.
Après le sacre de champion d'hiver le week-end dernier, ils reprennent 4 points d'avance sur l'Inter.
Non, vous n'écoutez pas une émission de janvier 2019 ou 2018 ou 2017. Nous sommes bien en janvier 2020 et la vieille dame de Turin, la dame en noir et blanc, s'est confortablement installée en tête du championnat d'Italie avec à ce jour 4 points d'avance. Une équipe qui ne veut pas se contenter du titre de champion d'hiver, artisan de la dernière victoire de la Juve, un certain Cristiano Ronaldo, avec un doublé qui lui permet d'être deuxième meilleur buteur. Il épate surtout son nouvel entraîneur, pourtant un vieux routier des bancs de la Serie A, Maurizio Sarri.
Essendo un animal si nutre di gol.
Cristiano Ronaldo est un animal qui vit pour empiler les buts. Le fait qu'il ait commencé très tôt avec cette fréquence lui a donné une grande confiance et un désir plus fort de marquer à chaque match. 11 buts en 7 rencontres. Ces chiffres ne sont pas normaux pour moi. C'est une combinaison entre le physique et le mental. Sa confiance en lui est à son top en ce moment.
Alors à son grand âge, Cristiano Ronaldo est-il comme le bon vin qui s'améliore au fil du temps? Est-il aussi comme une voiture diesel qui a besoin de se chauffer en début de saison pour se mettre en route ensuite? On va aller tout de suite du côté de l'Italie. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Matteo, en Italie, on doit penser qu'il met un peu de temps à se mettre en route, Cristiano, mais finalement, il lève tous les doutes et toutes les interrogations qu'il avait suscitées il y a encore si peu de temps.
C'est comme un diesel, on pourrait dire. Écoutez, il y a presque 2 mois, Annie, vous vous rappelez, on était là, c'était si Cristiano avait garé sa hache de vaincre, car il n'arrivait plus à marquer de but pour le moins dans le mois de novembre. Puis à partir du 7 décembre dernier, il ne s'est plus arrêté. 11 goals dans les 7 dernières rencontres. Il faut savoir que le record de buts d'affilée en Serie A appartient à Fabio Quagliarella, 14 en 11 rencontres consécutives. Donc le Portugais a réduit au silence tous ceux qui avaient soulevé des doutes à son propos. Et ce n'est pas un hasard si hier, le site de la Gazzetta dello Sport a demandé aux internautes de voter le plus grand joueur de la Juve de tous les temps. Alors, pour l'instant, le classement indique Alex Del Piero à la première place avec le 30% des préférences. Assez Trousse, donc CR7, 20% des votes. Et troisième, un certain Michel Platini, 19%. Qu'est-ce que ce sondage montre? Bien, tout simplement que Ronaldo a déjà, non, il n'y a pas Zidane, franchement, pas dans les premiers trois. Hein. Donc bon, ce sondage a montré que Ronaldo a déjà conquis le cœur de la vieille dame pour toujours. Et vieille dame, qui vous venez de le voir, aime la polygamie.
En tout cas, on y aurait pensé avant, hein, que même quand, dès qu'il a débarqué, on se doutait bien qu'il avait plus d'un tour dans son sac, Cristiano, qu'il allait les séduire, les tifosi. Eric Mamrud, quelques détails sur tous ces chiffres.
Déjà dire que le doublé qu'il a marqué dimanche, c'était à domicile contre Parme, est très important puisque la Juve a gagné 2-1, donc il fallait un grand Ronaldo pour l'emporter, donc hisser la Juve un peu plus en tête du Calcio avec donc 4 longueurs d'avance sur l'Inter de Milan qui vient d'enchaîner 2 résultats nuls. Cristiano Ronaldo qui remonte au classement des buteurs de cette Serie A. Il est loin quand même d'Immobile, le joueur de la Lazio Rome, qui en est à 23 buts, mais il est deuxième juste derrière. Et puis remarquez que les autres buteurs de la vieille dame, Dybala l'Argentin et puis son compatriote Higuain, ils sont loin maintenant, 5 buts chacun. Gonzalo Higuain qui doit commencer peut-être à se dire « qu'est-ce que je fais là ?»
Habib, est-ce qu'avec un joueur pareil, alors qu'on a déjà 8 titres et qu'on connaît malheureusement le déséquilibre dans les championnats européens en général, en Italie en particulier, est-ce que le Calcio est déjà gagné ?
Il était déjà gagné, je pense, en début de saison. Il n'y avait aucun doute sur le fait que la Juve allait chercher ce titre. C'est vrai que l'Inter a été un trouble fait, mais ce qui est sûr, c'est que cette Juve, en termes d'effectifs, est bien trop fournie par rapport à toutes les autres équipes de cette Serie A. Quant à Ronaldo, on regarde, ce qui est très intéressant, c'est juste par rapport à la saison passée, marquer des buts, on a toujours vu marquer des buts. Ce qui était assez étrange, c'est de le voir marquer que 19 buts l'année dernière en championnat, je crois, sur la Serie A. C'est 19 buts, si Matteo peut confirmer, mais aujourd'hui il est déjà à 16 et on est à un petit peu plus de la moitié de saison, donc on peut penser que Cristiano Ronaldo finira avec 25-30 buts, ce qui est beaucoup plus dans les standards habituels d'un Cristiano Ronaldo. L'année dernière, pour moi, 19 buts c'était insuffisant, même s'il a dit que le championnat de Serie A était sûrement le championnat le plus difficile au monde pour marquer des buts. Mais je crois que malgré tout,
défenseurs.
L'année dernière, il a été en dedans en termes de statistiques. C'était sûrement l'adaptation de ce championnat. Il a montré énormément de qualité en Ligue des Champions. Aujourd'hui, on va retrouver, je trouve, un Cristiano Ronaldo plus dans ses standards. Et ne pas oublier qu'on est au mois de janvier et qu'il accélère en général fin janvier, début février, parce que les matchs qui comptent arrivent avec la Ligue des Champions. Et c'est là où on voit la qualité d'un Cristiano Ronaldo.
Naïm Moniol.
J'aime l'idée, la manière dont Sarri l'utilise, c'est-à-dire qu'on disait Sarri l'utilise pas comme il faut, mais l'idée de le mettre à deux en pointe avec Dybala, d'arrêter de l'excentrer tout le temps sur un côté, ce qui peut marcher en Espagne parce que les défenseurs sont toujours très hauts et pas en Italie, ça l'aide à être plus près du but, à être plus décisif. Le mettre avec soit Bernardeschi, soit Ramsey en 10, ça l'aide à avoir des ballons. Si possible, on le voit sur les derniers matchs, le fait que Rabiot soit de plus en plus titulaire avec Pjanic, c'est-à-dire que Sarri il a mis une équipe de joueurs de ballon, une équipe avec le pied sur le ballon, où ça combine, où ça tricote, où on va le rechercher. Et ça, c'est quand même là-dessus où il est très fort. C'est-à-dire que Cristiano, il marque des buts, mais surtout, quand il est bien entouré, quand il est disponible pour les autres, c'est là où il est le meilleur. Et je trouve que c'est quand même plus intelligent de le mettre dans cette configuration que de le mettre sur le côté gauche et de mettre avec Higuain en pointe, qui est un attaquant qui est pas très mobile, qui est un attaquant de surface, qui bouge pas beaucoup, qui a forcé Cristiano à faire un peu plus d'efforts. Donc je trouve que Sarri l'utilise bien.
David Ortolari.
On pouvait attendre d'un Cristiano quand même de retrouver de la moelle, de la consistance au bon moment aussi d'une saison. Et peut-être avec un joueur comme ça qui prend de l'âge.
C'est pour ça que je parlais de Diesel, on a l'habitude.
Oui, parce que par ailleurs, un bon vin, il y a un moment où quand même il décline aussi, mais l'apogée peut durer un certain temps.
Des fois, on ne sait jamais.
Oui, Cristiano, alors il y a aussi un côté peut-être un peu malin dans la communication. On n'est plus tout à fait, Matteo là aussi pourra peut-être nous confirmer, mais enfin je veux dire, c'est une question de perspective. On n'est plus tout à fait non plus dans la Juve des années 80, 90, 2000, à l'époque du football italien où on marquait effectivement 5 buts par journée, tout club confondu. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus ouvert quand même.
Oh oui, mais beaucoup moins que l'Espagne.
Certes, non, mais bien sûr, et que d'autres championnats. Mais
les défenses italiennes sont toujours plus basses que les défenses espagnoles, et là où tu pouvais à 32, 33 ans jouer sur un côté et prendre ton défenseur dans le dos parce qu'il était sur la même ligne que les milieux de terrain, en Italie tu le vois pas ça.
Non, c'est vrai, mais Immobile dont Matteo parlait tout à l'heure, on est quand même à 23 buts et il y a quand même quelques buts qui sont inscrits en Serie A actuellement.
Tu as des défenseurs qui restent à leur place et qui sont pas bons. Aussi, tout simplement.
Tout simplement. En tout cas, Matteo, alors, cette Juve, partie pour un 9e titre, et bien partie avec l'avance qu'elle a, mais quel est le club qui pourrait encore contester la domination de la Juventus? Parce qu'en début de saison, on a bien cru que ça pourrait être l'Inter Milan, avec notamment Antonio Conte, arrivé, ancien de la Juve, ancien de Chelsea, qui a longtemps été premier, hein, qui tenait le rythme de la Juve. Et qui fait du surplace actuellement, 4 points de retard. Ou alors, est-ce que ça serait la Lazio de Rome qui mène, elle, un peu tambour battant ses victoires soutenues et n'est finalement qu'à 6 points de la Juve?
Ben pour l'instant, je réponds en disant que l'adversaire le plus sérieux, c'est lui qui comprend que face à la Juve, même un match nul peut coûter cher. L'Inter s'en est rendu compte car elle a ramassé seulement 2 points dans les 2 dernières rencontres, chose qui a permis au Bianconeri de reconquérir le sommet. C'est vrai que le Nerazzurri semble actuellement moins brillant et un peu à bout de souffle par rapport à quelques semaines. Et puis bon, vous l'avez dit, il y a la Lazio qui cette saison a battu 2 fois sur de la Juve. Les Romains ont gagné les 11 dernières rencontres de championnat, qui est un record absolu pour le club qui peut compter sur un super attaquant Pirlo Immobile. 23 buts sur les 46 réalisés par l'équipe, c'est-à-dire 1 sur 2. Et donc à la Lazio, il y a un super bon centre, mais aussi un excellent milieu de terrain qui le soutient, et dont l'homme fort est Luis Alberto, l'Espagnol, auteur de 12 passes décisives, un des meilleurs passeurs en Europe. Et quoi dire aussi d'une défense qui n'a cédé que 18 buts, seul l'Inter a fait mieux, 17. Tout cela pour dire que pour le moment, c'est vraiment difficile de trouver des grands défauts chez les Biancazzurri. Biancazzurri qui cette année fête les 20 ans par rapport à leur 2e Scudetto. Ils avaient gagné un Scudetto en 2000, donc ça tombe bien. Ça pourrait tomber bien.
Oui, ça pourrait. Éric Mamrut.
Bon, je veux pas enlever du suspense à cette Serie A, mais si on regarde le calendrier, en fait, d'ici la fin de la saison, les Turinois, eh bien, vont recevoir leurs principaux adversaires. Tout va se jouer à la maison. La vieille dame reçoit l'Inter de Milan le 1er mars, reçoit la Lazio Rome le 26 avril et reçoit la Roma lors de la dernière journée. Donc, ça lui donne quand même un sacré avantage.
Naïm Ognol.
Faut quand même pas oublier un truc, c'est que l'Inter est encore engagé en Coupe d'Europe, alors que la Lazio l'a balancé justement pour se concentrer sur le championnat. Puis, il y a quand même beaucoup, beaucoup de blessés à l'Inter. L'Inter, cette saison, ça a retrouvé une crédibilité grâce à Conte, parce qu'on n'est plus en train de se dire dans combien de temps l'entraîneur va sauter, ce qu'on se disait à peu près avec tous les entraîneurs de l'Inter sur les dernières saisons.
Voir les dirigeants.
C'est vrai que c'est beaucoup plus solide derrière, parce que si je ne m'abuse, c'est la meilleure défense d'Italie. Mais c'est quand même une équipe qui est très dépendante de son duo d'attaquants, Lautaro Lukaku, avec un milieu qui tourne beaucoup en fonction des blessures, en fonction des formes et des méformes. C'est difficile d'avoir tout le monde au même moment sur 3-4 matchs de suite. Voilà, c'est aussi pour ça qu'ils, mais Eriksen, tout à fait.
Alors voir Giroud.
Il est pas milieu de terrain, Giroud. Alors que la Lazio, je crois pas que la Lazio va partir pour un cycle de 5-6 ans au sommet de l'Italie. Je crois pas qu'ils vont faire je sais pas quoi, mais le fait d'avoir un calendrier plus allégé, une équipe certainement beaucoup plus cohérente avec un milieu de terrain, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva et Luis Alberto qui ne bouge pas, qui est très cohérent, ça leur donne l'avantage sur ces 3-4 derniers mois. Je trouve que la Lazio a plus une tête de dauphin que l'Inter.
Mais ils sont dépendants quand même d'Immobile. Et le vrai problème, c'est qu'il faut espérer que lui continue à marquer jusqu'à la fin de saison. S'il a un moment de moins bien, je trouve qu'ils ont quand même moins de remplaçants que peut avoir par exemple l'Inter.
Ah bon? Parce que si tu retires soit Lautaro soit Lukaku,
ils en ont deux.
Immobile. Oui, mais l'un va toujours avec l'autre.
Oui, c'est vrai dans le projet de jeu.
Parce que si tu les retires, tu joues avec Alexis Sanchez ou le petit D'Ambrosio.
Je pense que la Lazio s'aidera un petit peu par rapport à l'Inter, mais tu as raison de souligner que cette équipe, et surtout Simone Inzaghi, fait du très très bon travail avec cette défense à 3 ou cette défense à 5, comme on veut la voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une vraie continuité dans le travail, ils ont un attaquant qui marque beaucoup, donc il faut espérer que la réussite continue pour Immobile.
David Ortolari.
C'est amusant parce qu'il y a une espèce de mode très courte des clubs qui challenge, qui défient un peu la Juve les dernières saisons. On a parlé de Naples.
Oui,
là, ils sont à combien?
Ils sont
à 25 points, je crois, même
ouais.
pas loin.
En perdition.
Trop loin, ouais.
L'AC Milan non plus. L'Inter, peut-être, mais on a évoqué les limites actuelles. Lazio me plaît bien, moi, sur une saison comme ça, sans Coupe d'Europe, comme le précisait Naïm.
Ouais, mais c'est un truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve qu'on accorde peut-être plus de crédit à l'Inter de Conte comme dauphin, oui. qu'à la Roma de Rudy Garcia il y a quelques années, qui talonnait la Juve à peu près jusqu'au mois de décembre. Et puis on s'est dit, non, ça va craquer. Alors que là, aujourd'hui, on se demande si l'Inter va pas finalement reprendre la tête. Je trouve qu'un des arguments numéro un de l'Inter, c'est le fait d'avoir retrouvé un entraîneur connu, compétent, qui oui, coache bien, qui est très solide. Ça donne à l'Inter cette crédibilité. Mais je trouve que l'équipe en elle-même, surtout le milieu de terrain, c'est un peu défaillant par rapport à la Lazio, qui est peut-être dépendante d'Immobile devant, mais qui n'est pas dépendante de ses attaquants, pas uniquement en Italie. Je trouve que c'est plus cohérent, plus consistant, et surtout, ça va être un calendrier plus allégé.
La Roma ne lui a pas donné de crédit parce que Rudy Garcia ne battait pas la Juve. Ouais. Alors que là, la Lazio, si je ne me trompe pas, Matteo a déjà battu la Juventus de Turin, si je ne me trompe pas, cette saison. Voilà.
Eric Mamoy.
Juste préciser que la Lazio Rome est troisième à 6 longueurs de la Juve, mais avec un match en retard, voilà, à disputer contre le Hellas Vérone en février. Donc potentiellement, elle n'est qu'à 3 longueurs.
Elle pourrait passer effectivement devant l'Inter au décompte des points. Et donc on verra si l'Inter se renforce. Mais à Milan, il n'y a pas qu'un seul club. Il y en a deux, n'est-ce pas, Matteo? Et un peu loin de cette bataille, ils sont 8e à 23 points du leader, les Rossoneri. L'arrivée d'Ibra a coïncidé avec 2 victoires de l'équipe, ce qui est pas mal, mais Zlatan n'est pas tout seul, heureusement d'ailleurs, et un joueur s'illustre ces derniers temps, il a retenu notre attention, il s'appelle Théo Hernandez, c'est le frère d'un autre Hernandez qu'on connaît mieux, Eric Mamrut.
C'est le petit frère de Lucas.
Petit, à peine petit, parce qu'ils ont
un an et demi
d'écart.
Un an et demi d'écart, presque c'est sûr, jumeau. Mais enfin il a 22 ans, il est pas
bien sûr.
Pas bien vieux, la famille Hernandez, leur père était footballeur.
Ouais.
peut-être aussi.
C'est pas le même.
Ça, hein, et il était footballeur pro et il est passé par l'Espagne. Et c'est là où sont nés Lucas et Théo. Ils ont grandi en Espagne.
Il est né à Marseille, en tout cas, Théo.
Ouais, ouais, mais très vite, à un an, ils sont allés s'installer en Espagne. Ils ont grandi, ils ont fait leur classe de footballeur en Espagne, et Théo est passé par Alavés, au Real Madrid. Il a gagné la C1 en 2018 avec Zidane. Et il était dernièrement à la Real Sociedad avant d'être cédé donc au Milan AC. Donc il brille, même s'il n'est que latéral gauche. Mais enfin, latéral gauche peut marquer des buts. Là, il en est à 6, toutes compétitions confondues. 5 en Serie A, 1 en Coupe. Et le dernier, c'était ce week-end, une magnifique frappe du gauche de l'extérieur de la surface de réparation. Pas mal.
Matteo, du coup, il vole un peu la vedette à Ibrahimovic, Théo Hernandez?
Bah écoutez, Annie, dans cette saison assez triste pour les Rossoneri, deux choses ont réservé du plaisir. D'un côté, le retour de Zlatan, et de l'autre, la découverte de Théo Hernandez, qui est vraiment devenu le super-héros de San Siro, ainsi que, vous l'avez dit, le meilleur buteur de l'équipe.
Il y a une magnifique photo que vous nous avez envoyée, qu'on mettra sur notre page Facebook, de Théo Hernandez couché sur San Siro.
Sur le stade de San Siro, en effet. Il faut savoir que seulement un défenseur dans l'équipe, dans l'histoire du club milanais, a réussi à faire mieux pour ce qui concerne les buts. C'était Aldo Maldera qui, dans l'année 78-79, avait réussi à marquer 9 buts. Donc, c'est une belle chose qu'est en train de faire notre ami Théo Hernandez. Et c'était depuis les années de Paolo Maldini que les supporters de la scène n'estimaient pas autant un défenseur de tel niveau. C'est même Maldini qui est le premier sponsor du Français, car c'est lui qui a organisé son transfert à Milan et convaincu les dirigeants du Real de Madrid. Théo a été payé 20 millions d'euros pour un contrat de 5 ans et on estime que sa valeur de marché a quasiment doublé. Oui. Mais lorsque Théo a marqué à Milan, il avait déclaré cet été qu'il voulait contribuer à réaliser l'histoire du club. Et pour l'instant, il a donc tenu sa promesse.
C'est pas mal parti. Et son entraîneur, justement, Stefano Pioli, eh bien, il ne tarit pas d'éloges. Mais il dit aussi qu'il peut faire mieux.
J'ai eu la chance de jouer avec un des meilleurs défenseurs de mon époque, Antonio Cabrini. Théo, je l'incite tous les jours à faire plus, car je suis sûr qu'il a toutes les qualités pour devenir, à son tour, un des plus forts défenseurs du monde. Il doit encore s'améliorer, mais il a les moyens de le faire. Pour l'équipe de France, si Théo continue à jouer à ce niveau, je crois bien que l'entraîneur français ne pourra pas l'ignorer, car on parle de quelqu'un qui est vraiment très très fort.
L'équipe de France, alors évidemment, il y en a beaucoup qui en rêvent du côté de l'Italie, mais parlons de Théo Hernandez, parce qu'il y a quand même une particularité, on parlait de son presque jumeau, en tout cas son grand frère, il joue au même poste, ouais, Habib.
Il joue au même poste.
En même temps,
c'est bien, on a été du côté de l'équipe de France en pénurie de latéraux, donc plus il y en a, mieux c'est. Je trouve que pour un entraîneur, ça reste intéressant. Il est très performant, ce qui est par contre, très grave pour le Milan AC, c'est que le défenseur soit le meilleur buteur de cette équipe. Parce qu'on a quand même aujourd'hui Théo Hernandez avec 5 buts.
Zorro est revenu.
Zorro est revenu, mais on a Piatek qui est à 4 buts. Donc ça prouve que le Milan est aussi en difficulté et n'est pas capable de ressortir un attaquant. Mais ce qui est sûr, c'est que Théo Hernandez a été un joueur qui a été très souvent blessé. Lorsqu'il est arrivé au Real Madrid, on se souvient de sa séance de jonglage qui n'avait pas été parfaite. Il avait été un petit peu critiqué là-dessus. Mais là, du côté du Milan, il retrouve en quelque sorte ce qu'il doit être, un très bon joueur de football, il l'était, il peut enchaîner les matchs, c'est aussi une bonne chose pour lui, mais je ne sais pas si ça suffit pour avoir sa présence en équipe de France. Pour moi, il faut beaucoup plus.
L'équipe de France, puis on sait que Deschamps aime beaucoup Mendy, donc quand il est apte à jouer avec Manchester City, les deux, c'est
le problème de Mendy, voilà. C'est le physique
défaillant. Quand il est apte à jouer, voilà. Non mais pour lui, Milan, c'est une étape, c'est qu'aujourd'hui, Milan AC, c'est pas un club suffisamment sérieux, régulier, pour qu'un joueur puisse s'épanouir et de donner le meilleur de son potentiel. Ce qu'il montre aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure quand Matteo parlait, c'est que si vous prenez les arrières-gauches dernièrement au Milan AC, c'est des joueurs qui ont tous failli. Dernièrement, on a eu Rodriguez, je me rappelle d'une époque où il y avait Taitayo, il y a eu Jamel Mesba. Donc c'était un poste où personne ne s'imposait, personne n'était très fort. Lui, il arrive, il montre des qualités, ça fait longtemps qu'on n'a plus un défenseur comme ça, qu'il en profite, qu'il se montre un maximum pour ensuite évoluer. Mais un joueur qui veut devenir un des meilleurs du monde à son poste reste pas à Milan AC.
David Ortolari, on a l'impression que c'est ces deux frères qui sont passés sous les fourches caudines de Simeone, en tout cas de la mentalité Atletico. Ça leur a donné aussi une identité en tant que joueur un peu dur à cuire.
Absolument. Et pour Lucas, c'est compliqué en ce moment parce que son indisponibilité, oui, qui avait d'abord été diagnostiquée assez longue, finalement va être longue, voire très longue, et puis ça dure. Donc on va voir dans quel état aussi il va pouvoir lui revenir à son meilleur.
On pense à l'Euro, bien sûr.
Mais absolument, Annie, sur la mentalité, sur l'état d'esprit, sur la capacité à être à 105% sur chaque duel, sur chaque engagement, sur chaque action, là-dessus, j'ai aucun doute.
On se souvient comment il est si facilement entré dans son rôle dans l'équipe de France et comment il avait été impressionnant, justement un peu chien de garde dans cette équipe.
Complètement. Oui, il a été très très fort, c'est clair. C'est clair qu'il a même surpris tout le monde parce que personne ne s'attendait à ce niveau de performance. Pour le coup, celui qui était de l'autre côté n'a pas fait une immense Coupe du Monde, mais son but contre l'Argentine le sauve. Celle de Lucas Hernandez. Mais après, il est aujourd'hui au Bayern Munich, donc ça prouve que ce n'est pas non plus un joueur moyen. Si le Bayern Munich l'a pris, c'est que c'est un bon joueur. Je pense que Lucas Hernandez a fait une très 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 bonne Coupe du Monde.
Voilà pour ce qui est de l'Italie et de la Serie A. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, je vais pas relancer le débat, mais enfin après, est-ce qu'un défenseur qui marque, c'est un argument pour Didier Deschamps pour prendre ? Voilà, non. On se rappelle de Mathieu Debuchy qui avait fait une bonne fin de saison avec Saint-Etienne avant la Coupe du Monde 2018. Il avait empilé les buts et les buts. Il y avait pas mal de forfaits.
Debuchy, il avait 32 ans, il avait été opéré de partout.
Mais il jouait bien, ça pouvait être une solution. Il y avait pas mal de forfaits.
Non, mais c'est surtout
le profil. Didier Deschamps avait dit, c'est pas parce qu'il marque que ça m'intéresse, quoi.
Non, mais c'est surtout le profil. Est-ce que l'équipe de France a besoin d'un arrière latéral à gauche qui monte beaucoup parce qu'on a un joueur qui va venir à l'intérieur? C'était un petit peu le cas par exemple pour Matuidi. On savait que Pavard, on n'avait pas besoin que ça soit un joueur très offensif parce qu'on avait Mbappé qui animait plus ou moins tout ce côté. Donc c'est aussi une question de profil. Il va essayer de penser d'équilibre. Et si Théo Hernandez correspond à ce profil que veut Didier Deschamps, là oui, il a une opportunité pour venir en équipe de France. Mais là où je rejoins Naïm, c'est que Benjamin Mendy, au niveau, on l'a vu là dernièrement avec City, là, la semaine dernière, Il est extraordinaire et à ce niveau-là, il ira en équipe de France.
Il y a un argument qui est indéniable avec Deschamps, c'est qu'il faut jouer la Ligue des Champions. C'est qu'à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, si Théo Hernandez veut à un moment donné attraper les Bleus, soit il faut que Milan se remette à se qualifier en Coupe d'Europe régulièrement et il figure plutôt bien, ce qui est quand même pas donné, soit
loin,
alors il faut qu'il change de club.
Eric, encore un petit mot.
Non, mais juste pour, parce qu'on parle du Milan assez, saluer la fin de carrière de Kevin Constant, le Guinéen, il l'a annoncé hier soir, ancien joueur donc du Milan AC, il est passé par Toulouse, Châteauroux, le Kiev Vérone et le Genoa avant d'aller au Milan AC. Il était sans club depuis une pige en Iran, puis donc il annonce qu'il arrête pour des raisons personnelles. Selon lui, il a 32 ans, il a porté à 25 reprises le maillot de la Guinée.
Merci beaucoup Matteo Cioffi d'avoir été en direct dans Radio Foot International. À très bientôt.
Merci. Ciao. Merci Annie, je voulais seulement dire que si vous avez des problèmes en France avec Théo Hernandez, nous les Italiens seraient bien ravis de l'accueillir dans la nationale. Hein.
Donc, ah oui. Vous voulez lui offrir la nationalité, c'est ça?
Bon, c'est si il est dispo, oui, pourquoi pas.
C'est toujours un maillot bleu, besoin, hein, finalement.
Mais il avait hésité avec l'équipe d'Espagne, puisque donc il a la double nationalité avec son frère. Et il avait d'ailleurs refusé une sélection en espoir il y a deux ans, enfin 2017, je crois.
On s'en souvient. Ouais.
Et il y a à peine un mois, il a dit non, finalement, moi, ça sera l'équipe de France.
Ouais, ça serait étrange. Ça a déjà existé avec les frères Boateng, si je ne me trompe pas, mais ça serait étrange.
Un dans chaque équipe, oui. Merci beaucoup, Matteo. Ciao, ciao.
Ciao.
We've all been waiting for the Erling Haaland. Now let's see what the young man has got.
Haaland, et voici le 29e. Sur sa première opportunité, Erling Haaland qui signe son entrée en Bundesliga. Le voilà le phénomène. Erling Haaland pour redonner espoir au Borussia Dortmund.
Haaland, hij aan de Marlijn. Haaland, draagt zijn nummer. Haaland met Wenstre. Hat-scoren, hat-trick.
En le sur un énorme bonhomme qui vient de faire ses débuts en Bundesliga, le Norvégien Erling Haaland.
Et il est reparti avec le ballon sous le bras, comme le veut la tradition lorsqu'on inscrit un triplé renversant au cours d'un match gagné. Là, c'était dans ce cas face à Augsbourg. Mais quel phénomène a donc débarqué dans la Ruhr ? Erling Haaland, le buteur qui venait du froid, comme on s'amusait à dire, le Norvégien de 19 ans, passé quelques mois seulement de son football club de Molde ou Molde, vous parlez norvégien ?
Molde, oui.
Molde, pardon.
On prononce le...
De Molde au Borussia Dortmund.
Je ne parle pas tout à fait norvégien, Annie, mais j'ai quelques notions. Voilà.
Je me souviens.
Pour rétablir la vérité.
En passant quelques mois donc par Salzbourg en Autriche, il a permis aux jaunes et noirs de Dortmund donc de se replacé quatrième à 3 points du Bayern, le Bayern qui est second en Bundesliga et à 7 points donc du premier Leipzig. Lucien Favre qui l'a lancé en cours de deuxième mi-temps. On se souvient que dans le Café des Sports vendredi, on avait parlé de l'arrivée de ce joueur, de ce buteur et Favre était très prudent en disant on va pas le lancer dès le premier jour, on va attendre qu'il lui aussi se mette en route. Eh bien il l'a lancé en deuxième mi-temps et il n'en croyait pas ses yeux.
On était mené 3-1. L'entrée de Haaland en seconde période était prévue. Il a immédiatement inscrit un but et cela a donné un nouvel élan à l'équipe. C'était fou, on courait après le score et nous avons finalement gagné 5-3. C'est fantastique. Nous nous étions créé pourtant quelques occasions avant et puis Haaland est arrivé et a mis 3 buts.
Haaland kommt und macht 3 Tore. On dit Haaland ?
Non, on dit Haaland.
Haaland, en Norvège.
En Norvège.
Bon, en France, on dit Haaland.
C'est plus proche du O avec les deux A, voilà.
Merci pour la leçon. En tout cas, premier match en Bundesliga, premier triplé. Est-ce un surdoué ou est-ce une chance de débutant ?
Alors, il y a des précédents. Il me semble que Pierre-Emerick Aubameyang, qui lui-même avait le numéro 17 dans le dos, avait marqué 3 buts aussi, me semble-t-il, lors de son premier match.
C'est le 7e à faire ça, mais c'est le plus jeune.
Alors, prodige, oui.
C'est l'ère de la Ruhr.
non, mais
souvent pollué, mais bon.
Ouais, alors non, mais il y a un contexte favorable quand même, et surtout pour revenir à la base et à ce joueur lui-même avant de parler de ceux qui sont autour de lui, même si ça aide évidemment avec tous les joueurs qu'il a autour de lui. C'est un prodige évidemment parce que il arrive à mélanger un physique un peu hors norme quand même, 1m94, très fort, très puissant, et une vélocité, une virtuosité, on peut dire. Même si dans le football, qui est un sport collectif, ça fait pas tout, mais on a vu sur les trois buts là qu'il a marqué, alors que son équipe était menée 3-1, sans se poser de questions, en première intention, des frappes toujours très précises, que c'est un joueur qui ne doute pas. Alors ça, des jeunes qui ne doutent pas, il y en a plein, mais en plus il a une technique d'une grande précision. Il y a une technique grande précision. Après, moi, on en a vécu suffisamment tous autour de la table là pour pas commencer à dire il va marquer 3 buts à chaque match, mais il va apporter beaucoup au Borussia Dortmund, encore une fois, avec tous les manieurs de ballon qu'il y a autour de lui. C'est forcément un recrutement idéal à court terme et sans doute à moyen terme aussi, soit pour avoir un investissement qui rapporte, soit pour le garder un moment pour qu'il progresse encore.
Éric Mamrut,
Pour dire que c'est peut-être pas une coïncidence, parce qu'il aime les premières. Lors de son premier match de Ligue des Champions disputé avec Salzbourg le 17 septembre dernier contre Genk, il avait marqué un triplé.
Non, mais c'est justement, t'as bien fait de le dire, parce qu'on ne peut pas minimiser le fait qu'il a brillé en Ligue des Champions, en fait. C'est que.
C'est quelques semaines, on va dire, six matchs en Ligue des Champions.
On a entendu dire, ouais, mais il a marqué des buts en Autriche, Salzbourg, c'est pas terrible. Oui, il a surtout fait une grande première partie.
Il y a eu un quintuplé, non, en Ligue des Champions, il me semble.
Ligue des Champions, il a 8 buts en Ligue des Champions. Bon, pour sa première saison, c'est quand même monstrueux. Moi, ce que j'aime surtout chez lui, c'est qu'il a un jeu qui correspond pas forcément à son physique. Habib qui est défenseur, je ne sais pas s'il a regardé le match de Dortmund, mais la manière dont il a systématiquement pris la profondeur derrière les défenseurs d'Augsbourg, qui n'étaient pas tous inspirés, on est bien d'accord, mais il a une intelligence de déplacement et une qualité de pied dans les 25 derniers mètres qui, pour un mec d'1m95, est quand même pas commune. C'est qu'on aurait
94,
tendance...
94, il a dit David.
Oui, mais on y est.
Ouais, mais tu comptes pas les cheveux aussi, c'est pour ça. Si les cheveux,
ça dépend des cheveux.
Mais... pour un garçon de son gabarit, on aurait plutôt tendance à le voir comme un point de fixation, un type qui conserve le ballon dos au but et puis qui distribue un petit peu. Il peut le faire, il sait le faire, mais il a surtout des qualités de vision du jeu, des qualités de déplacement que je trouve très intéressantes. Et moi, évidemment, je pense au match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
Allons-y.
On a parfois certains défenseurs au PSG qui s'enflamment, qui montent, qui regardent pas toujours derrière et qui sont pas toujours couverts.
On y vient.
Attention,
Habib, je voudrais savoir avant. Est-ce que c'est surprenant qu'un jeune comme ça, qui vient donc d'un pays, certes où on joue au football, mais c'est pas une grande nation du football.
C'est un football très rustre.
Voilà,
disons-le.
La Norvège, ce championnat et
mais
tout.
Mais il a de bons gènes, puisque son père, Alf Inge Haaland, était footballeur professionnel. Il est passé par Nottingham Forest, Leeds et Manchester City.
Alors, il a dû beaucoup regarder son papa, mais c'est passé dans les gènes où vraiment il y a comme ça des jeunes qui surprennent dès les premières secondes de match.
On a dit de Mbappé, même si c'est pas du tout le même profil, qu'à 18 ans, lorsqu'il a brillé en Ligue des Champions, c'était un prodige. Donc pourquoi on pourrait pas dire la même chose d'Haaland, puisqu'il a également brillé en Ligue des Champions. Moi, ce qui me plaît chez ce joueur-là, c'est la capacité d'adaptation, la légèreté qu'il peut avoir par
légèreté,
rapport à l'enjeu.
C'est un bon terme. Ouais.
On le voit, c'est un gamin qui prend beaucoup de plaisir. On a vu tous ses coéquipiers, mais tous venir le voir, le féliciter. Marco Reus a été dithyrambique à son encontre. Moi, ce qui me plaît, c'est ce qu'il montre, c'est-à-dire le panel qu'il a montré sur ce match-là. C'est vrai que les 3 buts parlent beaucoup. Ça, on dit souvent d'un joueur, et moi je retiens une expression de Thierry Henry qui avait dit « Mbappé, il pense ». Et on se rend pas compte, mais l'attaquant, en soi, il peut avoir énormément de qualité, mais les meilleurs attaquants sont les attaquants
certains,
qui, à un moment donné,
pas.
Dans une situation d'urgence, parce qu'eux, ils n'ont pas de temps, hein, il faut aller très très vite pour eux, sont des attaquants qui pensent. Moi, ce qui me plaît, c'est l'espace qu'il va rechercher pour se donner du temps. La vitesse aussi qu'il a à utiliser les espaces dans le dos d'une défense. Son 3e but, quand il conduit pied gauche, pied gauche, pied gauche, on a l'impression que dès le départ, il se met dans cette position parce qu'il va ouvrir son pied et il sait exactement où il veut mettre ce ballon. On ne sait pas. Ça sera sûrement pas un fait de paille, on sait pas si ça va continuer dans le temps. Ce qui est sûr, c'est que Dortmund a acheté un profil qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils avaient Alcacer, c'est pas du tout le même profil. Ils sont allés chercher un joueur beaucoup plus complet, et qui en plus va venir un petit peu dans ce contexte où Dortmund est capable de marquer en attaque placée, Dortmund est capable de marquer en attaque rapide. C'est une équipe qui est imprévisible, autant offensivement qu'elle peut l'être parfois défensivement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce profil-là va amener énormément de qualité à Dortmund. Et lorsqu'on voit ce qu'ils ont payé, même si on ne connaît pas les clauses éventuelles de revente, ce qu'ils ont pu payer derrière, mais on se dit que c'est quand même une affaire assez incroyable. Donc il faut espérer que ce garçon continue à s'épanouir. La limite, ça sera peut-être sa sélection. Parce que forcément, lorsque vous jouez pour la Norvège, vous jouez pas pour la France, l'Italie, l'Espagne ou autre.
C'est l'Allemagne qui pourrait en avoir besoin.
Mais,
l'équipe d'Allemagne.
Mais aujourd'hui, je suis sûr que c'est un garçon qui va arriver à Dortmund et qui va s'épanouir parce que ce football-là va lui donner cette opportunité.
Alors, les textes en plus lui permettent d'avoir joué la première partie de la Ligue des Champions en match de poule.
Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
Exactement,
c'est tout récent,
avec son club de Salzbourg. Et là, il va jouer avec le BVB. Alors, lors du tirage au sort, Haaland n'était pas là. Alors, Abi, je vais vous redonner la Nabim, je vais vous redonner la parole puisque vous aviez commencé à aborder.
Ouais, c'est bien, c'est un bon mix.
Naïm Moniol, est-ce que cette équipe du BVB est plus forte qu'au moment du tirage au sort?
Ah bah oui, elle est plus forte parce qu'elle a un argument offensif supplémentaire, un argument de poids.
Mais qu'on a vu sur un quart de match.
Qu'on a vu sur une demi-saison en Ligue des Champions aussi. Haaland, il est fort, c'est un garçon qui a des qualités, c'est un garçon qui va peser, et qui en plus de ça, comme c'est un peu la hype du moment, qui va très certainement concentrer l'attention de un, de deux défenseurs et libérer des espaces pour les autres.
Est-ce que le PSG doit trembler?
Alors trembler non, on va pas exagérer, mais c'est un garçon à prendre évidemment au sérieux. Le secteur offensif de Dortmund est plus fort qu'au moment du tirage au sort, oui, c'est sûr que Kimpembe, Diallo, Kerrer, c'est-à-dire les joueurs qui ont des grandes qualités, mais qui ont tendance sur certains matchs parfois à oublier un placement, à oublier un marquage, à monter un peu trop sans regarder si c'est couvert derrière, n'auront pas le droit à l'erreur, encore moins le droit à l'erreur avec ce joueur. Maintenant, on va pas se mentir, Dortmund ne devient pas favori de la confrontation parce que Haaland c'est devant et que le BVB derrière, ça reste faible. Mais oui, c'est un argument supplémentaire.
David Lortolari, on se souvient quand il y avait eu le tirage au sort, on se disait finalement, bon, le Paris Saint-Germain, c'est plutôt pas mal.
Oui.
Est-ce que là, c'est devenu plus compliqué et au vu aussi peut-être de la remontée de Dortmund en championnat.
Oui.
Voilà, Lucien Favre, on a l'impression qu'il va un peu mieux avec son équipe.
Il a traversé, il a fait le Douro au moment où il était nécessaire de le faire. Et il y a un atout supplémentaire par rapport à ce que Habib et Naïm, c'est bon, j'ai les deux. Oui. On dit à l'instant sur le joueur complet.
Non mais est-ce que tu peux le dire en norvégien?
Hein? Non mais simplement, juste très rapidement un petit catalogue. Autour de ce joueur-là et pour l'alimenter, Jadon Sancho, Julian Brandt, qui s'installe maintenant vraiment comme milieu de terrain, très très doué, très très bon pour être précis dans les passes. Il y a les deux latéraux, Nico Schulz à gauche.
Thorgan Hazard.
Il y a Achraf Hakimi qui est brillantissime par moment. Thorgan Hazard, effectivement, on s'est dit avec l'arrivée de cet attaquant, Hazard peut-être va être le perdant. Pour l'instant, Lucien Favre, sur le match qui a eu lieu, a ménagé les deux. Marco Reus, évidemment, ça fait du monde autour de lui aussi, pour si ça se passe comme Naïm le précise, le pressant, c'est-à-dire avec des défenseurs qui pourraient s'intéresser un peu trop à lui peut-être, et qu'autour ça libère quelques mètres carrés, oui, ça peut être un problème. Alors moi j'ai pas d'inquiétude sur le PSG parce qu'il y a de la marge, ils vont en marquer 3 ou 4 à l'aller, ils vont en marquer 3 ou 4 au retour, mais est-ce que Dortmund n'est pas le club qui peut vraiment être le plus inquiétant sur le plan du potentiel offensif avec ces joueurs-là? Oui, sans doute.
C'est le contexte qui peut être difficile pour Paris. Parce qu'on a tous été voir un match à Dortmund et on sait que ce contexte-là, même si on est capable de dire aujourd'hui Dortmund défensivement...
Le premier Hummels, match est là-bas, hein, ouais, le 18 février.
Hummels, Piszczek, Akanji, c'est pas top, mais on se dit que c'est le genre d'équipe, et un peu comme le PSG, qui peut vous faire exploser en 15 minutes.
Ouais, mais...
C'est-à-dire que, alors, encore une fois, Anaïm, je suis tout à fait conscient du fait qu'ils ont des faiblesses et que, vu la force du
bien,
PSG...
Mais Manchester, ils les ont éliminés où, Paris?
Oui, mais... Dans un contexte peut-être un peu différent, et t'as raison de parler du fait qu'en huitième de finale, l'émotion, et d'ailleurs on a eu une discussion avec Kylian Mbappé juste après le match de Monaco, où Stéphane Guy lui dit alors vous êtes prêt pour la Ligue des Champions, il dit ouais on est prêt, mais tu sais la Ligue des Champions c'est en fonction de comment nos têtes vont, et ils sont conscients de ça, mine de rien. Et c'est vrai que Dortmund est l'équipe parfaite pour te faire exploser en 15-20 minutes et tu sais pas ce qui t'est arrivé parce que elle est comme ça, cette équipe, elle est un peu imprévisible, même si
c'est
pense
c'est son ADN depuis quelques années.
On a déjà vu Dortmund par exemple face à Schalke perdre ou alors il y avait 4-0 pour Dortmund et 4-4, enfin,
exact.
Donc c'est une équipe qui en l'espace de 20 minutes vous fait exploser et puis d'un seul coup vous comprenez pas pourquoi elle vous ouvre l'autoroute et vous pouvez rentrer dans cette défense comme si c'était journée porte ouverte. Donc je pense que ça va être un match très intéressant, mais malgré tout, là où je rejoins tout le monde, c'est que Haaland va amener autre chose à cette équipe, de la confiance également pour tous ses joueurs autour de lui, et peut-être que du coup, Lucien Favre peut se dire, maintenant ma défense, elle peut être aussi un petit peu plus renforcée, j'ai peut-être plus autant besoin de mes latéraux pour amener cette force offensive, et je vais me concentrer sur cette animation offensive. On verra comment ça va se passer.
Eric.
Juste pour rappeler un des faits d'armes pour en venir à Haaland, Coupe du Monde des moins de 20 ans, mai dernier, Norvège-Honduras, il met 9 buts, à lui tout seul, sur les 12. Bon, c'est que le Honduras, mais quand même, il faut le faire.
Oui. En tout cas, le PSG, justement, eh bien, si le match aura lieu à Dortmund le 18 février prochain, dès demain soir, cette équipe a un match important. Ça se jouera du côté de Reims. Mais avant de partir vers Reims, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que Cavani va rester ou pas dans cette équipe ? Alors, évidemment, on se pose la question. Leonardo, le directeur sportif, se la pose sans doute tous les jours, mais il a vraisemblablement, en tout cas c'est ce qu'on croit comprendre, ouvert la porte aux joueurs.
On a toujours dit la même chose par rapport à Cavani. Je pense que des joueurs comme lui, l'espoir qu'il y a dans le club, où il va rester heureux et bien, oh, je pense que le jour qu'il va partir doit être aussi comme ça. Là, on étudie la situation. C'est vrai aussi qu'on a eu une proposition d'Atlético Madrid, mais on n'a pas retenu une proposition, je parle de mercato, au niveau financier, importante, non, par la valeur de le joueur. Après, je pense que Cavani, pour tout ce qu'on dit, on doit l'écouter. On est à l'écoute. Et bon, après, on va voir comment ça va se passer.
Alors Cavani, le buteur historique de ce club, l'Uruguayen...
198 buts avec le PSG.
Qui ronge son frein hein, sur le banc, on le voit qu'il n'a que des miettes de match. Est-ce que le PSG doit le laisser partir ou est-ce qu'il doit le garder?
Là, le discours il est très très clair. Ils attendent une proposition à hauteur de 10, 12, 11, 13, je ne sais pas combien de millions pour le laisser partir. C'est juste une stratégie parce que de toute façon, dans le schéma actuel, dans le 4-2-3-1, Icardi est titulaire. Et on a Di Maria, Mbappé et bien sûr Neymar. Dans un 4-3-3, c'est du coup Mbappé qui passe devant, ou éventuellement, s'il devait sortir Icardi, il garderait Di Maria et Neymar. Donc de toute façon, Cavani ne rentre dans aucun des deux schémas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ambition pour le Paris Saint-Germain, c'est de dire, si on n'a pas ce qu'on veut en termes de millions, c'est-à-dire si on nous propose 5-6 millions, autant le garder parce qu'il offre une option éventuellement si Icardi se blesse ou si on veut faire rentrer un joueur qui va amener de la percussion, un petit peu de course devant. Mais si on reçoit une offre de 10 millions pour un joueur qu'on perd dans 6 mois et qu'on vendrait zéro, bah l'opération elle est simple. Et c'est ce qu'il dit en fait, Leonardo. Il dit on attend juste que l'Atlético vienne avec une offre un petit peu plus importante. Et il faut arrêter de penser qu'ils vont vouloir le faire sortir par la grande porte. Franchement, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, Leonardo, c'est pas une question d'état d'âme. C'est une question de dire on veut récupérer un peu d'argent pour un joueur qu'on perd dans 6 mois, pour qui on aura 0 euro. Si c'est le cas, bah on s'en contentera parce qu'on l'aura gardé 6 mois et il nous aura apporté quelque chose. Si on peut le vendre 10 millions, je peux vous garantir qu'ils vont le vendre. Surtout que Cavani veut partir.
Lui, il a tout intérêt à partir.
Lui, il a tout intérêt
moment.
À partir pour jouer, pour retrouver du temps de jeu, pour s'épanouir, pour être plus heureux parce que clairement, il est pas
la
heureux
Copa
à Paris.
America aussi.
Et, voilà, et pas uniquement en tant que joueur, mais en tant qu'homme. Là où c'est une erreur du Paris Saint-Germain, c'est que même s'il n'est pas titulaire ni dans un 4-4-2 ni dans un 4-3-3, vous n'êtes pas à l'abri d'une blessure d'un ou deux joueurs d'ici le mois de février ou le mois de mars. Mmh. Et qu'à un moment donné, laisser partir un joueur de cette qualité, c'est quand même une mauvaise opération de la part du PSG. Et moi, je vais même aller plus loin. Leonardo n'est peut-être pas dans l'état d'âme, le PSG non plus. Mais dans un club, on ne peut pas passer sur les messages qu'on envoie aux supporters. Et quand on sait ce que Cavani représente pour les supporters, représente pour le club, oui, faire partir Cavani comme un larbin au mois de décembre, sans une huée d'honneur, sans rien du tout, c'est envoyer un, envoyer un très mauvais message aux supporters par rapport à au message que tu as envoyé en couvant Neymar l'été dernier qui voulait se barrer et prêt à payer de sa poche. Et le message que Leonardo est en train de faire, oui, à l'instant T, eh ben il va partir, on va prendre du pognon, on va avoir les quatre de devant, et puis basta.
Il dit Cavani n'est pas heureux et il veut partir, et c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait partir. Donc en fait, lui, il dit pas qu'il veut vendre Cavani. Il va te dire. Ouais, mais attention, Cavani voulait partir.
Tu sais très bien qu'il veut partir parce qu'ils le prennent pour un con.
Je suis d'accord avec toi, Naïm. Mais dans la communication, tu me dis que ce qu'ils envoient comme message.
Les supporters le savent.
Tu verras qu'il dira Cavani voulait partir. On a répondu à ses attentes.
Et il sera couvert, c'est vrai. Mais tu sais très bien que les supporters savent que le traitement de Cavani par le PSG est indigne et que tôt ou tard, après une élimination, peut-être en fin de saison, peut-être là, ça retombera sur la gueule de Leonardo.
En tout cas, c'est un peu aussi défier les mauvais vents qui parfois ont soufflé sur le parc, parce qu'on pense aux blessures de Neymar. Et dans ces cas-là, on était bien content d'avoir Cavani. Demain soir, justement, le PSG, il se déplace au stade Auguste Delaune à Reims. Alors, c'est un stade qui a été refait, n'est-ce pas ? On le sait. Mais c'est une demi-finale de Coupe de la Ligue. Et on se demande qui sablera le champagne à la fin dans ce stade. Le lieu, en tout cas, parce qu'il a été reconstruit au même endroit, dans un lieu qui fut historique.
Balle interceptée, heureusement par des joueurs de Reims, et l'arbitre siffle.
Les Rémois mènent ensuite des attaques de fort belle allure. et ses attaques de Reims finissent par être payantes.
Ça coulisse parfaitement bien avec ce centre pour Dia. Dia, la reprise de Dia.
Oh, quel but, quelle action.
Et but façon Neymar. Façon Neymar, mais pour Reims, pour Boulaye Dia qui termine le boulot.
2 à 0. Grosse déconvenue pour le PSG, mais surtout énorme performance de Reims.
Ça fait 17 ans que j'en rêve, donc il y a un moment où ça peut peut-être arriver un jour. Bah, vous imaginez bien ce que c'est que la passion, donc dans ces cas-là, effectivement, on a tendance à pouvoir craquer. Je pense d'ailleurs que si un jour j'ai le bonheur d'aller au Stade de France, j'aurai du mal à pas pleurer pendant une heure et demie.
Voilà Jean-Pierre Caillot, le président de ce Stade de Reims. Alors un stade auréolé hein, par un passé qui fut celui de Raymond Coppa et de Jean Vincent, mais aussi celui plus récemment de Carlos Bianchi. Et puis récemment, Abbey Bay, c'est aussi une équipe qui avait battu le Paris Saint-Germain.
Ouais, exactement.
Mais surtout, on s'en souvient, notamment nous, de l'équipe Radio Foot avec David Finzel, où on était le 25 septembre dernier, ils avaient perdu 2-0.
Oui, ils avaient perdu 2-0 à domicile.
C'est une équipe qui va pas se laisser faire demain soir.
Non, non, qui va pas se laisser faire. Après, j'ai tendance à
penser
que...
Là, il faudra Cavani en plus.
Moreno avait dit qu'une équipe ne perdait pas, en tout cas ne faisait pas un mauvais match deux fois de suite. On a pu voir que le match qui a suivi pour les Monégasques a été compliqué. Mais Reims joue à domicile sur une demi-finale de Coupe de la Ligue. Il va y avoir du monde, il y aura beaucoup de motivation.
D'enthousiasme.
Mais je crois que l'échec aussi dans cette compétition du Paris Saint-Germain l'an passé va forcer Thomas Tuchel à aller chercher ce trophée parce que mine de rien, rien n'est garanti dans le reste des grandes compétitions. Je pense à la Ligue des Champions, je pense que le championnat, on sait tous que c'est fait. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être difficile pour Reims parce que je pense qu'il y a de l'orgueil aussi chez ces Parisiens, l'envie d'aller chercher un maximum de trophées cette saison. Aussi s'épargner les éventuelles discussions qu'il pourrait y avoir avant une Ligue des Champions de se faire sortir en demi-finale de Coupe de la Ligue qui pourrait alimenter la presse et déstabiliser un groupe qui pour l'instant est plus ou moins en confiance pour ce huitième de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, j'ai tendance à penser que le Paris Saint-Germain va quand même afficher son statut et gagner ce match.
David Ortolari.
Quelques absences quand même qui peuvent compter malgré tout. Il me semble que Cavani est pas tout à fait bien remis de non mais parce qu'il peut jouer par ailleurs, mais il est pas, quand même malgré tout encore aujourd'hui à l'heure où on parle, il peut jouer
de sa blessure psychologique.
Si on écoute Thomas Tuchel qui a évoqué une fatigue grandissante de Icardi, de Di Maria, peut-être ça peut être des absences qui sont importantes dans un match de demi-finale de coupe. Voilà, sans vouloir faire de faux suspense, parce que Habib nous a clairement donné les clés de la rencontre, et si le PSG est mobilisé, il n'y aura pas photo.
Non, je suis d'accord avec Habib et David, Paris n'a pas la marge de manœuvre pour perdre. Donc je ne dis pas que sur le contenu ça va être flamboyant, mais sur le résultat ils vont passer.
Ouais, c'est obligation. Avant de refermer cette émission, et je suis désolé, on vous parlera demain de Karl Toko Ekambi parce qu'on a traîné un peu sur d'autres sujets. On vous parlera aussi demain de ce tirage au sort pour les éliminatoires Afrique de la Coupe du Monde 2022. Je voudrais vous lire quelques messages que David Finzel a sélectionnés sur notre page Facebook. D'abord, il y a des salutations qui s'adressent à Habib Bey. Il y a Oussou Bébé Ganagay qui vous dit bonjour spécial à Habib Bey avec sa magnifique voix radio. Et c'est la meilleure émission de foot que nous animons.
Il a raison pour la deuxième chose.
La magnifique la première, émission. C'est à deux c'est ça.
Et il y a Prince Kassalia qui vous dit Habib Bey le plus doué. Enfin, il y en a un qui ose vous demander les raisons de votre absence.
Les raisons de mon absence, beaucoup de travail et une famille à gérer de trois enfants.
Sûrement son obsession de devenir coach.
Exactement,
suppose-t-il,
aussi,
n'est-ce pas aussi. Mais il y a des messages pour David Lortolari, quelqu'un qui est fidèle depuis Bamako à Madouba et qui avait justement posé la question, vous n'étiez pas là vendredi, et Abou Gay qui nous dit que le football nous intéresse bel et bien en Afrique. Des fois, on a des doutes. Et pour finir, un petit message pour Naïm Moniol, Mamadou Saint-Yaya, qui dit que vous nous avez beaucoup manqué. Vous dites-il.
J'étais là la semaine dernière, mais c'est gentil.
Oui, mais
c'est
loin
vous manquez
déjà.
Tout le temps.
Bah, merci,
David Finzel et Laurent Salerno m'ont aidé aujourd'hui. À demain.